Bonsoir. Troisième jour sans Internet en RDC, la Fédération des entreprises du Congo recommande au gouvernement de lever cette mesure qui a complètement paralysé l'activité économique. De son côté, le gouvernement annonce une reprise graduelle de ce service. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois ingénieur Kabéan Kachama, consultant en télécommunication à Paris. Ingénieur Kachama, bonsoir.
Bonsoir Alain, mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Radio Kassi et aux auditeurs de Radio Kassi.
Merci. Emmanuel Moukadi, expert en cybercriminalité. Bonsoir Monsieur Moukadi.
Bonsoir Radio Kassi et bonsoir à tous les auditeurs.
Israël Moutala, journaliste, il est aussi analyste économique et politique. Monsieur Moutala, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Alain.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les opérateurs économiques membres de la FEC, Copemeco et FENAPEC, demandent au gouvernement de rétablir les services Internet fixes. Ils ont lancé cet appel ce jeudi à Kinshasa dans le souci de voir l'activité économique perturbée reprendre rapidement. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Dans son communiqué de presse, la Fédération des entreprises du Congo indique, je cite, « La FEC, la Copemeco et la FENAPEC constatent que pour rétablir l'ordre et la sécurité, le gouvernement a pris une mesure radicale de bloquer l'accès à Internet. Nos membres en sont aujourd'hui les premières victimes. » Fin de citation. Et cette institution de poursuivre que l'activité économique et les transactions commerciales sont complètement paralysées depuis 3 jours. Selon son communiqué, la FEC recommande au gouvernement une concertation avec ses membres opérant dans le secteur des télécommunications pour les mesures de sécurité appropriées qui ne bloquent pas l'activité économique. Pour terminer, en vue de permettre le déploiement d'une activité économique ayant effet visible pour la population, la FEC rappelle au gouvernement ses demandes prioritaires. D'abord, présenter et faire voter rapidement la loi sur la promotion de la classe moyenne congolaise. Ensuite, présenter et faire voter rapidement la loi sur la protection de la production locale. Et enfin, lancer rapidement des actions à impact socio-économique visibles dans toutes les provinces.
Le vice-premier ministre et ministre des PTN TIC a annoncé ce matin un allègement du dispositif sécuritaire qui a entraîné la coupure du signal Internet en RDC. Thomas Luaka l'a dit après une deuxième rencontre ce matin avec les opérateurs GSM dans son cabinet. Il ne dit pas clairement quel service est disponible, mais annonce une reprise graduelle. On l'écoute au micro de Daniel Tambinzoni.
Donc aujourd'hui, le 22 janvier 2015, nous nous sommes réunis avec, nous avons invité les opérateurs du secteur des télécommunications pour leur communiquer que les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place à la suite des événements malheureux que nous avons connus dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes en province, nous avons communiqué des mesures d'allègement qui ont été prises par le gouvernement. Donc c'est la communication qui a été faite aujourd'hui et nous allons progressivement revenir à la situation normale en ce qui concerne les télécommunications.
En quoi va consister cet allègement?
Non, vous allez constater ça vous-même. Les techniciens s'en occupent, voir comment graduellement nous allons revenir à une situation normale. Merci beaucoup.
Israël Moutala, vous êtes journaliste et également analyste économique et politique. Comment vous analysez cette situation de l'Internet qui a été coupée voici 3 jours et la Fédération des entreprises du Congo qui recommande au gouvernement de lever cette mesure qui a complètement paralysé l'activité économique?
Merci de la parole. Cette situation est vraiment préjudiciable à l'économie nationale. C'est une situation qui va coûter au minimum 2 points de PIB. Il faudra absolument que le gouvernement soit rigoureux pour nous dire un peu quel a été l'impact justement de l'interruption de télécommunications, en tout cas en ce qui concerne Internet et la messagerie. Ça a complètement paralysé non seulement les activités économiques, mais aussi justement les activités interpersonnelles. Donc, cette mesure a un coût économique très important. Donc, pour moi, j'estime pour l'instant que ça peut coûter entre 1 ou 2,5 de PIB. Et cette mesure, l'a dit, c'est une mesure radicale qui visait justement à rétablir l'ordre public. Je ne vais pas refaire l'histoire récente de ces événements, mais encore une fois, on montre comment est-ce que le lien entre la politique et l'économique est étroit. On a toujours dit, on ne peut pas faire de la bonne économie sans bonne politique. J'espère que, avec les événements que nous avons connus ces derniers jours à Kinshasa, les hommes politiques, les hommes d'État comprendront une bonne fois pour toutes que la stabilité politique est essentielle à l'épanouissement économique et partant à la réduction de la pauvreté. C'est une critique qui doit être absolument intégrée, imprégnée par nos dirigeants politiques et à l'avenir, j'espère de tout cœur qu'ils seront conséquents. Alors, pour revenir une fois de plus à cette mesure qui a pénalisé les transactions bancaires, les transactions télécommunicationnelles, parce que nous sommes à l'heure du numérique, on ne peut pas concevoir une vie dans une société moderne sans Internet. Moi-même, je sens comme si quelque chose qui fait partie de ma vie m'a été ôté. Donc, c'est une restriction de liberté qui passe mal en tant que citoyen, et je comprends encore le désarroi des hommes d'affaires qui, aujourd'hui, passent des commandes, donnent des instructions grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, aujourd'hui, c'est une donnée fondamentale. Donc, chaque fois que le gouvernement je voudrais prendre une mesure aussi radicale, il faudrait qu'il y réfléchisse à deux fois. Mais dans le cas d'espèce, le gouvernement, j'imagine, jouait sa survie et les considérations d'ordre économique sont passées au deuxième plan. Et c'est dommage et c'est bien triste.
Alors, Israël Moutala, vous venez de dire que vous estimez entre 1 et 2,5 de PIB comme perte. Pour les auditeurs qui nous suivent et qui tous ne sont pas économistes, en termes chiffrés, ça peut faire combien de millions, de milliers de dollars, par exemple?
Bon, si je parle du PIB qui est d'environ 20 milliards, je pense que les pertes que peuvent avoisiner facilement 2 milliards de dollars. Donc, 200 millions à 400 millions de dollars. Bon, si je parle du fait que nous avons le PIB peut évaluer à 20 milliards de dollars, donc je pense que nous avons perdu entre 200 millions à 400 millions de dollars. Donc, je suis pour être moins pessimiste, je pense que nous avons perdu entre 200 et 400 millions de dollars.
Alors, cette mesure a également préjudicié les transactions dans les postes frontaliers à Kasumbalesa, à Matadi, Boma. Il y a des compagnies aériennes qui ont été perturbées, la messagerie financière, n'en parlons pas. En d'autres termes, l'État s'est un peu fait harakiri.
Oui, l'État a perdu, a détruit la richesse. Donc, il y a eu une destruction de la richesse, clairement, parce que vous imaginez le nombre de SMS que les Congolais s'envoient par jour, ça a un coût, donc manque à gagner pour les sociétés de télécommunications, et comme il y aura manque à gagner chez les sociétés de télécommunications, il y aura moins de taxes et moins d'impôts pour l'État. Et donc, c'est une perte énorme pour les banques, qui font les transactions, la monétique aujourd'hui notamment, qui est dépendante justement des connexions Internet. Ça a été paralysé, et donc là aussi, sur tous les transferts qui auraient pu se faire, toutes les taxes que perçoit l'État, et tous les bénéfices qu'engrangent les banques, il y a des pertes sèches. Je parle des autres entreprises qui devait donner des ordres à gauche et à droite. Les ordres n'ont pas été donnés, les produits n'ont pas été déstockés, n'ont pas été écoulés. Bref, c'est toute une machine logistique qui a été bloquée parce que la chaîne par laquelle passent les ordres a été interrompue.
Merci.
Et donc, aujourd'hui, les pertes sont énormes. Donc, j'aurais voulu vraiment que la FEC et la COPEMECO et la FENAPEC puissent s'adonner à cet exercice. Il faut commencer à chiffrer les pertes, avoir des approximations et les affiner au fur et à mesure, et pour enfin aller vers l'État et lui dire, voilà, la mesure que vous avez prise, voilà ce qui nous a coûté, comment vous allez compenser cette perte? Parce que les investissements sont les investissements, mais il faut qu'on arrive à les sécuriser et à les promouvoir. Et quand on prend des mesures aussi radicales que couper les connexions, Internet notamment, je pense que l'État ne doit pas se cacher indéfiniment derrière le rétablissement de l'ordre public.
Merci.
Il doit aussi aller plus loin et déménager les opérateurs économiques et tous les Congolais qui s'estiment les mesures.
Merci Israël. Ingénieur Kabéan Kachama, vous êtes consultant en télécommunication à Paris. Pour vous, comment vous analysez cette situation? Vous venez de suivre Israël Moutala.
Oui, Alain, pour aller presque dans le même sens que Israël Moutala, je vais rester un peu dans le contexte technique. Vous savez que au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, le secteur des télécommunications est un levier de développement économique dans tous les pays. Pratiquement dans tous les pays développés, ils axent la priorité sur le développement du secteur de numérisation. Donc, comme Israël venait de le dire tout à l'heure, beaucoup d'entreprises travaillent à temps réel. Pour les entreprises de services, pour les entreprises de production, ils travaillent à flux tendu, donc ils doivent avoir impérativement des communications avec leurs fournisseurs et leurs clients à temps réel. Dans le cadre des banques, si au niveau des établissements bancaires qui ont des agences, admettons au niveau de Kinshasa, s'ils n'ont pas développé un réseau local pour pouvoir interconnecter leurs agences en intranet sans passer par un opérateur public, même les transactions locales peuvent poser des problèmes parce qu'il va falloir interroger, par exemple, le serveur qui se trouverait au siège avant de servir un client qui serait au guichet de MATT ou d'Engie. S'il n'y a pas un réseau local pour pouvoir interconnecter ces agences en intranet, ces banques sont paralysées, sans parler de tout ce qui est communication avec les échanges avec l'étranger. J'ai suivi le président de l'association des banques du CLOCND qui a évoqué le cas. Donc, je vous donne juste un cas. Le 8 juillet 2012, ici en France, il y a eu paralysie suite à une panne au niveau de réseau Orange. Une cellule de crise a été mise en place par le gouvernement, mobilisant trois ministres du gouvernement, Arnaud Montebourg de redressement productif, Fleur Pellerin de PMI numérique et Arnaud, l'autre ministre de l'économie, j'ai oublié le nom. Donc, il y a eu une crise, tout simplement une coupure de 12 heures, ça a mobilisé pratiquement trois ministres du gouvernement pour étudier l'impact de cette panne qui avait pratiquement isolé 28 millions d'abonnés. Gouverner, c'est prévoir. Et j'estime que avant de prendre cette mesure draconienne de couper complètement les communications, il y avait moyen d'étudier l'isolement de certains réseaux sociaux, si c'est les raisons que le vice-premier ministre venait d'évoquer tout à l'heure dans son intervention pour des raisons de sécurité. Il y avait moyen de procéder par isolement de réseaux sociaux et laisser le secteur économique fonctionner correctement. Donc j'espère que après cette crise, Ce que je demanderai à la FEC et à la Fédération des banques, avec le ministre de l'économie et le vice-premier ministre de PTNTIC, c'est de faire l'étude de l'impact de cette décision pour évaluer le coût réel de ces coupures, parce que comme ce n'est pas un cas de catastrophe naturelle, je ne vois aucune assurance qui pourra rembourser les opérateurs économiques qui sont malades, les opérateurs économiques vont se retourner vers le gouvernement. J'ai devant l'écran le rapport de la Banque centrale du Congo sur 2012. Le secteur des télécommunications a contribué au PIB à la hauteur de 4,7% de notre PIB. Et en termes d'évolution des communications, quand on prend entre 2011 et 2012, on est passé de 2429,3 milliers d'unités consommées à 2791,2 milliers d'unités consommées. Donc c'est l'État qui est perdant parce que l'État cherche de l'argent pour financer certains projets. En coupant pendant 3 jours, il y aura un coût énorme et je suis
prêt pour ce
coût-là.
Alors, ingénieur Kassama, vous venez de dire qu'en France, pour une coupure, une interruption de 12 heures, il y avait une cellule de crise qui avait été mise en place. Et donc, c'est une décision lourde de conséquences quand même.
Très lourde de conséquences. Vous venez de prévoir, avant de prendre cette mesure-là, je pense que le gouvernement Matata devait examiner les conséquences économiques de cette décision, bien que sécuritaire.
Alors, Israël Moutala parlait des compensations. Qui va payer à qui?
C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle pour que les assurances interviennent. Moi, à la place de la FEC et des autres entrepreneurs, donc au niveau de la FEC, des organisations des PME pays, ils doivent se retourner vers l'État. C'est à l'État de payer. C'est l'État qui a pris une mesure non réfléchie.
Serait-il possible, ingénieur Kassama, de mesurer les pertes quand on sait qu'en RDC, par exemple, la grande partie de l'économie est informelle?
Ça encore, ce n'est pas quantifié. Tous ceux qui travaillent en informel, ils ont besoin d'avoir les communications. C'est difficile de le quantifier. Je fais confiance aux chiffres que Israël Moutala venait de donner tout à l'heure. Je pense que pour les 3 jours, on ne sera pas loin de milliers de dollars perdus.
Israël Moutala a évoqué, j'allais dire, un paradigme important. La stabilité économique dépend de la stabilité politique.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez que même pour les investisseurs, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de les références. Il y a quelqu'un qui avait dit que faites-moi de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Donc, si nous devons avoir toujours une politique où on ne privilégie pas le dialogue et l'intérêt général, on veut gouverner par la force et par défi, je pense que cela aura un impact sur l'économie.
Emmanuel Moukadi, vous êtes expert en cybercriminalité. Vous venez de suivre l'ingénieur Kassama et Israël Moutala. Quelle est votre lecture?
Oui, je saute à pieds joints par rapport aux deux pertinentes interventions que mes prédécesseurs ont eu à faire. Je signale en passant que je suis auteur d'un livre Internet pour les meilleurs et pour les pires lié aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Et donc, on a besoin de répéter ce qui a été dit. La décision, il est évidemment difficile de la juger, d'autant plus que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Devant la raison d'État, parfois il faut prendre des décisions qui peuvent occasionner beaucoup de remous et des agitations, mais au nom de la raison d'État, il y a des décisions douloureuses parfois à prendre. Je suis d'accord, bien entendu, de conséquences que cette décision a suscité, évidemment, Mais il faut signaler que ce n'est pas une première. En Tunisie, en Égypte aussi, lors du printemps arabe, ces États que je viens de citer n'avaient pas du tout hésité à couper carrément la connexion Internet. Bien évidemment, se pose la question de l'éthique. Est-ce bien, est-ce mauvais? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Bon, certains diront que c'est mauvais dans la mesure où il y a privation de l'accès à l'information, qui est un droit consacré dans la Convention internationale de droits de l'homme. L'accès à l'information est un droit, je dirais, sacro-saint. Alors, d'autres vous diront aussi que devant la raison d'État, l'État devait prendre des décisions, certes draconiennes, mais pour préserver l'ordre public. Voilà un peu mon point de vue.
Alors, et donc on comprend, selon votre analyse, que la raison d'État prime sur tout le reste.
Oui, la raison d'État prime sur tout le reste. Vous savez que aux États-Unis, pratiquement toutes les communications sont sur écoute. Alors, à première vue, cette manière de faire est très répréhensible, mais l'État américain justifie cette mesure par la raison d'État pour la sécurité de l'ordre public. Mais évidemment, c'est là aussi, comme je l'ai dit, la liberté, la vie privée est quelque chose de sacro-saint auquel on ne doit pas toucher. Moi, j'aimerais, par rapport aussi à mon expertise de cybercriminalité, cela prouve aussi que l'État congolais doit saisir cette occasion pour mettre à jour ses capacités en nouvelles technologies d'information et de communication, dans la mesure où l'État peut, au lieu de couper, parce que la décision pratiquement est similaire à l'ouverture d'une boîte de Pandore, l'État doit être capable de contrôler toutes ses communications par Internet. Cela nécessite évidemment beaucoup de moyens techniques, une expertise très accrue, et cela doit, à mon avis, susciter, une réforme au niveau des services de sécurité, la création, à mon avis, d'une agence nationale de sécurité informatique capable de gérer, épier, à la limite, toutes les communications qui ont lieu dans ce cyberespace, qui est un monde, finalement, sans frontières, qui est un no man's land, un far west, un monde où le droit n'a pas droit de citer, si vous voulez.
Et donc, le cyberespace est un far west, un no man's land, et vous ajoutez que l'État doit être capable de contrôler toutes les communications par Internet, et en ce moment-là, la limite entre la raison d'État et la vie privée devient difficile à établir.
Oui, effectivement, la limite entre... C'est finalement une frontière très poreuse. Je crois que l'État doit évidemment... comme on dit, tout excès est évidemment nuisible, mais évidemment, il faut cibler ces communications. Il ne s'agit pas évidemment de tous les citoyens. Je ne suis pas agent de la sécurité, mais on sait les types de personnes pour lesquelles il est impérieux d'avoir un contrôle sur leurs communications, particulièrement sur le cyberespace. Parce que vous savez qu'il existe aussi des cybercriminels. La cybercriminalité, comme on l'a dit, c'est l'ensemble des crimes qui se commettent dans les cyberespaces. Et là va du hacking, ce qu'on appelle l'accès illégal à des données informatiques, le piratage des cartes bancaires, les escroqueries de tout genre. Donc l'État doit finalement ménager la chèvre, le chou, contrôler, mais évidemment promouvoir aussi des lois qui pourront être susceptible de rassurer, de garantir dans la mesure du possible les libertés individuelles.
Alors, l'État doit légiférer par rapport à l'utilisation de l'Internet. On sait que c'est également un grand débat à travers le monde entier. Vous pensez, Emmanuel Moukadi, que ce serait facile dans le contexte congolais ou dans le contexte africain?
Oui, vous avez raison. La législation sur l'Internet, étant donné que une des caractéristiques du cyberespace est le fait d'être transfrontalier. Vous savez, nous communiquons avec des gens qui sont en Inde, nous communiquons avec des, par Internet des gens qui sont en Afrique du Sud. Donc, il y a nécessité que des initiatives soient prises au niveau des ensembles sous-régionaux. L'impulsion, à mon avis, doit être donnée au niveau de l'Union africaine d'abord, et de fil en aiguille, les ensembles sous-régionaux. Je pense ici à la CEAC, je pense ici à la SADC, je pense ici au CIRJL, etc. Donc il y a des initiatives qui doivent être prises pour permettre une collaboration entre les États. Parce qu'aucun État ne peut avoir la prétention de légiférer sur Internet. Je donne un exemple simple. Vous légiférez sur Internet que toute personne ayant commis telle infraction peut être poursuivie. Mais vous savez que je peux être en Afrique du Sud et commettre un crime cybercriminel, perpétrer un crime cybercriminel au Congo, en ce moment-là. Quelle est la législation qui aura le primat ? La législation de l'Afrique du Sud ou la législation de la RDC ? D'où la nécessité d'une synergie. Il faut une synergie entre les États pour contrôler. Et
merci.
Si vous avez suivi la dernière rencontre de procureurs généraux, si vous avez lu le communiqué, la lutte contre la cybercriminalité a été
épinglée
en bonne place.
Merci Emmanuel Moukadi, je vous redonne la parole tout à l'heure. Israël Moutala, vous venez de suivre Emmanuel Moukadi qui évoque un certain nombre d'éléments, notamment une législation sur l'utilisation de l'Internet, l'État qui doit être capable de contrôler toutes les communications par Internet, le cyberespace qui est un Far West, un No Man's Land. Quelle est votre analyse par rapport à tous ces éléments?
Je ne suis pas d'accord avec mon prédécesseur sur ce point. Je ne pense pas que la question ici était de criminaliser le comportement des Congolais par rapport à Internet. Le gouvernement a coupé les communications parce qu'il avait peur que le mouvement de soulèvement s'amplifie. Parce que avec Internet, les gens avaient contourné la propagande. Et que donc, c'était un moyen de communication et de mobilisation de masse. Donc, on voyait un reportage en temps réel. Tous les Congolais de Gaba, de Mastina, de Limikine prenaient des photos, mettaient sur les réseaux et ça alimentait la colère populaire, ça alimentait le soulèvement et le gouvernement a eu peur parce que certains leaders de l'opposition se servaient d'Internet pour faire passer des messages. Il y a eu des messages sous forme de tracts qui ont été envoyés comme des SMS pour que les gens puissent converger vers le palais du peuple. Donc le problème ici est éminemment d'abord politique. Si le gouvernement avait dit clairement aux Congolais que cette loi électorale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette loi électorale n'allait pas conditionner les élections, il n'y aurait pas eu tous ces malentendus. Le gouvernement a entretenu le flou, n'a pas dégagé les raisons politiques et les opposants se sont engouffrés dans la brèche et ils ont oublié la population. Le gouvernement a répondu par des mesures sécuritaires, mais au fur et à mesure, il allait déborder s'il n'avait pas coupé la communication. Voilà la problématique. Voilà le problème. Alors, le gouvernement pouvait éviter ce genre de fait s'il avait clarifié l'horizon politique au lieu, justement, de se complaire dans le flou politique dans lequel qu'il entretient. Voilà le problème ici. Ça veut dire que Internet a été un réseau d'expression libre des Congolais. Et là, vous voyez, tous les commentaires qu'il y avait, pour la plupart, battaient en brèche les thèses du gouvernement. Donc la propagande du gouvernement a été battue en brèche. Donc il faut faire très attention avec la raison d'État. La raison d'État se cache beaucoup de fourberies, beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc c'est au nom de la raison d'État que Mobutu avait instauré la dictature dans ce pays. Et donc l'État lui-même doit être soumis aux lois. L'État n'est pas au-dessus des lois. Donc, ce sont les citoyens, ce sont les opposants, ce sont l'État. Tout le monde doit être soumis aux lois. Or, nous sommes dans un État, le Congo ici, où parfois l'État nous donne l'impression d'être au-dessus de la loi. Donc, quand l'État lui-même ne se soumet pas à la loi, les citoyens que nous sommes, que sont les Congolais, trouvent d'autres voies pour, justement, pour s'émanciper. Alors, ici, Internet a été, les réseaux sociaux notamment, ont été un espace de liberté que les médias publics n'offrent pas. Et tout ça, ce sont des espaces que les Congolais sont jaloux. Donc, sur ce point-là, l'État est incapable, justement, sur les réseaux sociaux, d'imposer ses points de vue, et l'opinion nationale a basculé complètement en faveur de l'opposition. C'est cette crainte-là que les services de sécurité ont dit, la situation va nous échapper, alors là, coupons les télécommunications. Merci. Le problème est éminemment politique.
Voilà.
Le problème n'est pas dans une législation quelconque, non. Je pense que d'abord ici, le problème est éminemment politique.
Voilà. Ingénieur Kachama, la raison d'État qui prime sur l'économie, Israël dit qu'il faut faire attention avec ce concept de raison d'État qui contient lui-même beaucoup de choses à la fois.
Oui, vous savez, la liberté des citoyens, c'est une liberté fondamentale qui est inscrite même dans notre constitution. Je disais tout à l'heure que même si les raisons sécuritaires pouvaient donner raison à l'État de faire ce qu'il a fait, il y avait la possibilité de passer outre. Au lieu de couper totalement le réseau, il y avait moyen de filtrer des communications. Je voudrais compléter ici Emmanuel Moukadi. Il y a des équipements qui existent pour pouvoir filtrer même ce qui se passe aux États-Unis, même avant de mettre certaines personnes à l'écoute. Ce n'est pas d'un jour au lendemain qu'on peut décider comme ça. C'est toute une procédure. Il doit y avoir des juges qui donnent les accords pour que telle personne soit mise sous l'écoute, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'État. Donc, on ne peut pas se permettre de faire comme si on était dans un Far West, se permettre de mettre tout le monde à l'écoute. Donc, il y a les lois fondamentales qui existent pour protéger la liberté et la vie privée des hommes. Pour compléter Emmanuel Moukadi tout à l'heure, tous les États sont membres de l'Union internationale de télécommunications. C'est l'Union internationale de télécommunications qui élabore les lois sur l'exploitation des réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux téléphoniques et électroniques, donc Internet y compris. Au niveau de l'Afrique, il y a le secrétariat général panafricain dont le siège était à Kinshasa quand je partais. J'avais suivi également que le gouvernement est en train de faire les démarches pour faire revenir le siège à Kinshasa. Et au niveau du secrétariat général du Panafricain, pour l'Afrique, on peut mettre en place une organisation de suivi de tout ce qui est communication intracontinentale, donc au niveau de pays africains. Donc, moi, j'aurais souhaité, le gouvernement pouvait se renseigner auprès du ministre de PTNT, qu'il y a l'agence de contrôle qui est sur place, la CRP. Il y avait moyen de mettre en place avec tous les techniciens un système de filtre pour cibler exclusivement les échanges qui peuvent être considérés comme des échanges perturbant la sécurité nationale et laisser les circuits économiques fonctionner normalement.
Voilà. Emmanuel Moukadi, dans le communiqué, je vais vous lire un extrait du communiqué de presse de la FEC, je cite, « Nos membres en sont aujourd'hui les premières victimes. L'activité économique et les transactions commerciales et financières sont complètement paralysées depuis 3 jours. » Et donc, la sécurité numérique reste quand même un véritable défi, tant pour les individus, les nations que les entreprises.
Oui, effectivement. J'aimerais... répliquer à Israël, moi je suis tout à fait d'accord. La décision intempestive de couper l'Internet est une décision discutable. J'en conviens pas parfaitement. Mais il faut quelque part aussi, j'en suis aussi victime, pour tout vous dire. J'en suis aussi victime parce que vous m'avez présenté en tant qu'expert en, en cybercriminalité, je dois lire sur Internet des articles, je dois acheter des articles, je dois acheter des livres par Internet, etc. Donc j'en suis aussi victime. Mais je tente de dépassionner quand même le débat. Vous serez d'accord avec moi, Alain, que dans les communications qui ont lieu dans Internet, notamment pour les événements, il y a eu quand même aussi des exagérations, des imputations dommageables. L'expert qui est en France a parlé de la propagande. Il y a aussi la rumeur qui a enflé. On a même parlé de la mort d'Eliezer Tamboué, le journaliste de Canal Kin. Vous voyez un peu, c'est pourquoi moi je l'ai qualifié de Far West. Donc il faut quand même séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Oui, la décision est discutable, mais quand on poste des photos qui n'ont rien à voir avec les événements d'avant-hier, est-ce que cela est tolérable, Alain? Je ne crois pas. Au-delà du fait, et je le répète, que la décision est discutable. Mais il y a eu quand même aussi des exagérations. Et vous savez qu'avec Photoshop, le logiciel Photoshop, il y a eu beaucoup de caricatures, il y a eu beaucoup de faussetés qui ont été. Alors, l'État ne pouvait pas rester indifférent face à ces flux d'informations qui étaient fausses. Mais la décision de couper Internet, je précise que cette décision est discutable. Mais je ne sais pas, c'était un choix cornélien, comme on dit, et entre la raison et la passion. Et l'État a choisi la voie de la raison, bien que cela soit discutable. Donc, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, je suis d'accord avec le communiqué de la FEC. Les conséquences négatives que cette décision a suscitées interpellent tout un chacun. Mais moi, je me mets quand même à la place des dirigeants face à ces flux d'informations, face à la cybercriminalité qui avait vraiment galopé, qui avait atteint le point culminant sur Internet, il fallait prendre une décision. C'est pourquoi moi j'ai proposé que l'État puisse, au lieu de couper Internet, qui est une décision très impopulaire, j'en conviens, l'État doit penser, trouver des mécanismes techniques pour les filtrer. L'expert de la France l'a évoqué, pour savoir filtrer. Il existe aussi des logiciels de filtrage pour épier toutes les communications susceptibles d'être considérées comme subversives. Voilà mon point de vue.
Emmanuel Moukadi, est-ce que le fait, par exemple, de couper Internet n'aurait-il pas fait amplifier également la rumeur dans une certaine mesure?
Oui, peut-être. Parce que la nature a horreur du vide, vous le savez. Cela peut amplifier. Bon, moi, je ne suis pas l'État, je ne suis pas un agent de l'État. Je tente d'avoir une réflexion avec une approche dialectique, voir le bon côté et le mauvais côté. Il ne faut pas avoir, quand on est scientifique, quand on est citoyen, c'est la liberté, on parle de la liberté. Il ne faut pas avoir, un esprit moutonnier, parce que tout le monde condamne et qu'il ne faut pas tenter de voir les motivations profondes qui ont conduit à cela. Cela peut-être a conduit aussi à susciter, à enfler la rumeur, la nature ayant horreur du vide. Mais je crois que le vice-premier ministre a effectivement donné certaines assurances que cela sera rétabli. Et je précise que l'État congolais n'est pas quand même le premier à avoir fait ces gestes discutables.
Merci.
La Tunisie l'a fait, la Chine n'en parle même pas. Vous savez que Google n'est pas accessible en Chine. Beaucoup de pays, l'Égypte a eu à le faire pendant le printemps arabe. Donc, c'est quand même aussi discutable.
Merci. Ingénieur Kachama, pour vous permettre de remonter votre temps de parole, Emmanuel Moukadi parlait de la rumeur, de la cybercriminalité, mais la grande question, c'est entre la vie privée et la raison d'État et l'ordre public, la limite est très difficile à établir.
Oui, et la limite, elle est très difficile à établir. C'est pour cela que moi, je vous donne mon approche en tant que technicien. C'est vrai qu'il faut assurer la sécurité de tous. Il faut éviter à ce que les rumeurs puissent provoquer encore plus de mal que du bien qu'on pouvait attendre de toutes ces réactions. Donc, il faut d'abord savoir que manifester, c'est un droit constitutionnel tant que c'est encadré, tant que c'est en ordre et que ça ne provoque pas tout ce qu'on a déploré pendant les trois jours, les morts, les pillages et les conséquences économiques à travers la coupure d'Internet. Je suis un peu dubitatif avec Emmanuel Moukadi qui parle de la Chine, qui parle de l'Égypte et de Tunisie à l'époque de Ben Ali. Je pense que mon pays s'appelle la République démocratique du Congo. Je ne sais pas le sens démocratique si ça pouvait avoir. La Chine n'est pas une démocratie, bien que c'est une puissance économique.
Merci.
Nous tendons vers la démocratie, nous tendons vers la liberté. Je ne pense pas que ce soit le modèle qu'on peut prendre. Donc il faut arriver à donner l'accès libre aux citoyens de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Et l'État doit jouer son rôle de sécuriser tout le monde. C'est pour cela qu'en tant que technicien, je propose
en guise de conclusion,
de moyens techniques pour pouvoir filtrer les communications, éviter à ce que tout ce qui pouvait poster les données subversives puissent le faire. Ça pouvait être bloqué directement et laisser libre cours à ceux qui travaillent.
Merci. Israël Moutala, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Le vice-premier ministre, ministre des PTNT, a annoncé un rétablissement progressif. Est-ce que cela peut déjà soulager et peut apporter peut-être une solution?
Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur la promesse du vice-premier ministre parce qu'elle n'est assortie d'aucun délai, donc pour moi, je la considère très peu. Donc j'attends que le circuit, ça, les données Internet soient rétablies. Mais il a été tellement évasif que je n'accorde pas beaucoup d'importance à ses propos. Mais je veux revenir sur l'ingénieur cyber en criminalité pour lui dire que c'est vrai que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a de la manipulation. Mais regardez sur les médias publics. Nous sommes dans un contexte de manipulation totale. Quand un membre du gouvernement veut réduire les événements que nous avons connus à une bande de pillards en méconnaissant l'aspect politique, c'est de la manipulation. Quand on offre un plateau à des gens qui disent n'importe quoi sur les médias publics par rapport à ce qui s'est passé, c'est de la manipulation.
En guise de conclusion, Israël?
Oui, c'est-à-dire en guise de conclusion, nous sommes dans un système où plusieurs médias ont été fermés, plusieurs journaux ont été interdits de parution, et donc le seul espace de liberté, ce sont les réseaux sociaux. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en les interdisant, le gouvernement ne s'est donné que du répit. Il n'aura pas, parce que la liberté est l'essence de l'homme, donc on peut la brimer comme on veut, mais elle trouvera toujours un moyen d'expression.
Merci. Emmanuel Moukadi, conclusion. Comment entrevoir l'avenir cybernétique ou numérique de la RDC?
Oui, ma conclusion est toute simple. L'État doit entrer de plein pied dans la lutte contre la cybercriminalité en créant, par exemple, une agence nationale de sécurité informatique et nous tenons prêts à offrir notre expertise quant à ce.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.